Chapitre 43. Kate passe le reste de la matinée à essayer de contenir la vague de terreur qui menace de la submerger. Elle n'a rien fait avec le sac et son contenu chiffonné, à part le refermer et le replacer derrière le panier à linge. Kate est censée fournir à ses éditeurs la première version d'un nouveau manuel à la fin du mois, mais elle n'est pas du tout prête. Elle s'assied à table et rédige précautionneusement un mail pour annoncer qu'elle ne sera pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Elle soupire en appuyant sur envoyer. Elle n'a pas l'habitude de rendre son travail en retard. Mais elle est trop distraite pour terminer dans les temps, et dès qu'elle regarde son écran, sa tête se vide instantanément. Elle ouvre son navigateur et tape « Agression sexuelle Hampstead ». Elle saisit un carnet et ôte le capuchon d'un stylo. La première agression de la série serait survenue le 4 janvier à Pond Street, et l'agresseur était cagoulé. Il était habillé en noir et avait ceinturé et ploté une jeune femme de 22 ans aux alentours de 11h30 avant de prendre la fuite sur un vélo municipal en voyant quelqu'un approcher. Kate écrit 11h30, 4 janvier. L'agression suivante avait eu lieu 3 jours plus tard. Une femme de 60 ans dont la poitrine avait également été malmenée par un jeune homme vêtu de noir. Elle avait des hématomes. Cela s'était passé vers 16h près du centre de loisirs et de l'école. Elle prend note. Ensuite, celle du 16 janvier, celle qu'elle et Rohan avaient découverte dans le journal. Une femme de 23 ans, sur qui l'agresseur avait bondi par derrière avant de la tripoter sous ses vêtements. Elle n'avait pas vu son agresseur, mais avait parlé de l'odeur de lessive qu'il dégageait et de ses petites mains. Kate ajoute une ligne à la liste. Elle connaît les 2 agressions suivantes, survenues à proximité de chez elle, en plein jour. Là aussi, des attouchements et des hématomes. Et enfin, la dernière, le 24 février, s'était produite au crépuscule, sur Finchley Road, près du cinéma. C'était la plus grave de toutes, la victime avait été emmenée à l'hôpital. Elle inspire profondément et ouvre son agenda numérique. Elle compare les dates et les heures avec le calendrier de ses activités à la recherche d'un élément permettant de disculper ses proches de ces horribles agressions. Elle pense à Josh, à ses câlins, à sa part de mystère, à son silence. Un nouveau frisson la parcourt. Mais ce ne sont pas les vêtements de Josh, ce sont ceux de Rohan. Et Rohan aussi a ses zones d'ombre. Il s'absente toute la journée et reste injoignable. Le soir, il court avec sa tenue en lycra noir pendant 2 heures minimum. Quand il revient, il est rayonnant, plein d'énergie. Il a ses secrets. Même si ce n'était pas une liaison l'an passé, il se tramait bien quelque chose. Puis elle songe à cette carte de Saint-Valentin écrite par une enfant et dont l'enveloppe ne correspond pas. Et cette adolescente qui était sa patiente et qui a disparu juste devant chez eux. Il y a trop d'éléments louches. Et maintenant, ce sac rempli de vêtements de sport qui empestent. Et surtout la cagoule. Aucune des dates ne lui permet d'exclure tout à fait la responsabilité de son fils ou de son mari. Il n'était peut-être pas à la maison lorsque ces agressions ont eu lieu. Elle regarde l'horloge digitale. Presque 11h. Josh est au collège. Rohan au travail. Ses failles. Ses fissures où le doute peut s'infiltrer. Elle attrape son téléphone et cherche le numéro de la mère de Tilly, Elona. Elle s'apprête à appuyer sur le bouton d'appel, mais le courage lui manque. Elle lui écrit un texto. « Chère Elona, j'espère que tu vas bien et Tilly aussi. J'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Est-ce que tu serais disponible pour un café dans la semaine? Dis-moi ce qui t'arrangerait. » Elona répond 30 secondes plus tard. « Bien sûr, je suis libre maintenant si ça te va. » Elle se retrouve au café Nero de Finchley Road. Elona est très apprêtée. Ses cheveux bruns sont noués en queue de cheval, elle porte une cape noire avec un col en fourrure, un jean sombre et des bottes à talons hauts. Kate ne comprend pas comment certaines femmes font pour être aussi séduisantes. Les efforts qu'elles déploient quotidiennement pour prendre soin de leur apparence, l'attention, le temps. L'argent. Elona lui donne une accolade et l'enveloppe de son doux parfum de miel. « Je suis contente de te voir, Kate », déclare-t-elle de sa voix mélodieuse aux accents d'Europe de l'Est. « Tu as l'air en forme. »« Merci », répond-elle, tout en sachant que c'est faux. « Je vais te chercher un café ou autre chose ?» Kate n'a pas l'énergie de se battre pour l'inviter. Elle se contente de sourire en commandant. Un petit americano, s'il te plaît, avec du lait chaud. Elle s'installe dans un fauteuil et sort son téléphone. Elle a un message de Georgia. Maman ? Puis un autre arrive. Je veux faire un gâteau ce soir. Tu peux acheter de la farine et des œufs ? Et 2 minutes plus tard ? Et de la cassonade ? Kate envoie un pouce levé et range son portable. Si on lui avait dit il y a quelques années que Georgia deviendrait le cadet de ses soucis, elle n'y aurait pas cru. Elona revient avec le café de Kate et un thé à la menthe. « Alors, comment ça va ?» lui demande-t-elle. « Oh, tu sais, il se passe tellement de choses en ce moment. » commence Kate. « Je ne sais pas si tu as entendu. » Elona hoche la tête vigoureusement. « Oui, oui. » Kate se rend compte qu'Elona a probablement remis à plus tard tout ce qu'elle avait à faire en recevant son message. « Qu'est-ce qui te tracasse ?»« Déjà, ils ont arrêté ce type, tu sais, le voisin d'en face. » »« Oui, j'ai lu ça. » Waouh ! Et tu en penses quoi ? C'est lui, à ton avis ? Eh bien, les apparences ne sont pas à son avantage, c'est sûr. Il a la tête de l'emploi. Cela dit, c'est lui qui a signalé à la police qu'il avait vu Saphir. Pourquoi est-ce qu'il aurait raconté ça si c'était lui qui avait fait le coup ? Sans son témoignage, la police n'aurait jamais su qu'elle était dans les parages ce soir-là. Il n'aurait jamais fouillé le terrain vague, il n'aurait jamais retrouvé sa coque de téléphone et les traces de sang. Ça me paraît un peu bizarre. Peut-être qu'il voulait se rendre. Oui, c'est une possibilité. Mais tout de même, il y a quelque chose qui cloche. Alors, c'est quoi ta théorie ?
Je n'en ai pas,
répond Kate avec un rire nerveux. J'ai juste une anti-théorie, c'est tout. Elona sourit, l'air déçu. Elle s'attendait à plus croustillant. Kate change de sujet. Comment va Tilly ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est vrai. Approuve Elona, les yeux perdus dans les feuilles de thé qui flottent à la surface de sa tasse. Elle est assez casanière en ce moment. Elle ne veut plus sortir. C'est probablement à cause de la saison, tu sais. La nuit quasi permanente. Ça a commencé quand, ce changement de comportement ?
Oh, je ne sais pas. Il y a quelques semaines environ. Depuis le nouvel an. Elle a l'air. Elle est plus heureuse à la maison.
Est-ce que tu penses ? Kate s'interrompt pour réfléchir aux bons mots. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'incident du mois dernier, quand elle est partie de chez nous et qu'elle a dit avoir été agressée ? Elona plante son regard dans celui de Kate.
Oui, l'idée m'a effleuré l'esprit.
Et ?
Tilly jure qu'il ne s'est rien passé ce soir-là, qu'elle a tout inventé.
Mais c'est étrange, non ?
Et le timing ?
Ça correspond au moment où se sont produites toutes ces autres agressions dans le quartier, et il se trouve que les autres cas ressemblent beaucoup à ce qu'elle a décrit.
Comment ça ?
J'ai lu ça dans le journal. Il y a eu 6 agressions sexuelles depuis le début de l'année. Et l'agresseur est toujours décrit de la même façon. Un jeune homme habillé en noir. Il s'attaque aux femmes par surprise pour les violenter avant de prendre la fuite.
Elona a l'air choquée.
Est-ce que tu penses qu'elle aurait pu se rétracter pour éviter les interrogatoires ?
Je ne sais pas du tout. On n'en a presque pas parlé. Je lui en ai tellement voulu d'avoir menti et fait perdre son temps à tout le monde. J'avais honte de son comportement. Tu sais, je suis toute seule, alors je me rends responsable de tout ce qu'elle fait. Et elle admire tant Georgia, et toi, et votre famille.
Ah bon ?
Mais oui, complètement. Elle n'a jamais eu de vraie amie comme Georgia avant. Elle l'adore. Je crois que toutes les deux, on était un peu chamboulées par les événements.
Oh, mais il ne faut jamais s'inquiéter de ce qu'on pense, ni de ce que Georgia pense. Rien ne la bouleverse. Elle a la peau dure. Tu peux dire à Tilly que quoi qu'il se soit passé ce soir-là, que ce soit vrai ou inventé, elle peut se confier à Georgia. Ma fille ne la jugera pas. Et personne dans la famille non plus, d'ailleurs.
Elona sourit et pose sa main sur celle de Kate. Un lourd bracelet doré entoure son poignet fin, et ses ongles sont peints en taupe.
Merci beaucoup, Kate. Merci. Je vais lui en parler dès ce soir et voir si elle me cache quelque chose. C'est très gentil à toi de te soucier d'elle.
Kate s'efforce de sourire. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est un mélange de désespoir et de terreur qui lui noue les entrailles. Sur le chemin du retour, elle s'arrête au supermarché pour acheter tous les ingrédients dont Georgia a besoin pour son gâteau. À la caisse, elle regarde vers la bouche de métro, s'attendant inconsciemment à ce que son mari s'y engouffre et que se répète la scène d'il y a 2 semaines.
Elle fait quelques détours pour repérer plusieurs des lieux mentionnés dans les journaux. L'agence immobilière à côté du cinéma, où elle voit des policiers condamner la porte arrière et où un véhicule de patrouille est garé. Puis elle passe par le coude qui forme la rue parallèle à la sienne, là où il y a une boîte aux lettres. Elle ne sait pas où le drame s'est produit précisément, mais elle frissonne tout de même en songeant à cet espace à l'abri des regards où une femme pourrait facilement se faire agresser sans que personne ne le remarque. Elle presse le pas pour rentrer chez elle, les nerfs à vif, le souffle court. En tournant dans sa rue, elle découvre quelqu'un assis sur le muret devant chez elle. Un homme jeune, grand, qui porte un manteau gris par-dessus un sweat à capuche vert vif. En s'approchant, elle remarque qu'il est métis et très beau. En apercevant Kate, il se lève. « Vous habitez ici ?»« Oui. » répond-elle en se disant qu'elle devrait se méfier, mais étonnamment, elle n'est pas inquiète. « Je peux vous aider ?»« Je... peut-être. Je ne sais pas. Ma nièce, Saphir, elle est venue ici, je crois. Vous savez, Saphir Maddox, elle a disparu. Je... » Il se frotte le menton en parlant, comme s'il essayait de faire sortir les mots. « Vous êtes son oncle ?»« Oui, Aaron Maddox. Vous êtes Madame Force ?»« Oui, la femme de Rohan Force. » Elle acquiesce. « Est-ce que je peux vous poser quelques questions ?» Kate sait qu'elle devrait dire non. « J'ai déjà tout raconté à la police, merci, au revoir. » Mais un détail dans l'apparence de cet homme suggère qu'il porte en lui plus que la douleur de la disparition de sa nièce. Quel genre de questions ? J'ai trouvé quelque chose dans sa chambre. Je sais que je devrais en parler à la police, mais je tenais à vous le montrer avant. Parce que... je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je peux entrer ? Kate lance un regard vers l'appartement de Wayne Peak. Calme. Vide. Elle jette aussi un coup d'œil aux fenêtres des voisins. Bien sûr. Suivez-moi. Dans la cuisine, Aaron Maddox s'installe sur une chaise sans enlever son gros manteau. « Attendez, je vais vous débarrasser. »« Merci. » Sur son pull, il y a un grand dessin de Spider-Man et le loco Marvel. Kate trouve ça rassurant. « Vous voulez boire quelque chose ? Un thé ? Un soda ? Je veux bien un verre d'eau, merci. » Elle le lui sert et le pose sur la table devant lui. Il se racle la gorge et sourit, gêné. « Vous savez, j'ai rencontré votre mari. J'ai assisté aux premières séances de Saphir. » C'était en 2014. C'est un homme bien. Oui, et il est très bon dans son travail. Je lui ai fait confiance tout de suite. Vous savez, quand on vit avec une petite fille qui se fait du mal, on sait que la situation est grave, mais on ne sait pas comment mettre des mots sur sa douleur. Mais lui, il a plongé avec elle. Il a gagné sa confiance. Et elle a arrêté. Elle se mutilait ? Elle est déjà au courant. Non pas parce que Rohan lui en a parlé, mais parce qu'elle a fouillé dans ses affaires et lu ses dossiers l'an passé. Oui, ça a commencé quand elle avait 10 ans. C'était horrible. Elle a encore les cicatrices ici, explique-t-il en montrant ses chevilles. Mais votre mari l'a aidée à surmonter ça. C'était génial. Et de penser qu'elle était là, devant votre maison le soir de sa disparition, ça me dépasse. J'ai du mal à croire qu'il s'agisse d'une coïncidence. Enfin... « Je sais très bien que ça n'a rien à voir avec lui, » poursuit-il en ouvrant les bras. « Je sais que vous étiez de sortie ce soir-là. Je sais que vous étiez ensemble. Mais c'est vraiment bizarre et je n'arrête pas d'y penser. Ça tourne en boucle dans ma tête. Je pensais qu'elle ne l'avait pas revue depuis la fin de la thérapie et je ne sais même pas comment elle connaissait son adresse. C'est incompréhensible. Comment a-t-elle pu se procurer cette information ?» Il laisse la question en suspens entre eux, tournoyant comme un pendule. Elle a peut-être vu son adresse écrite quelque part dans son bureau, je ne sais pas. Aaron acquiesce. Oui, c'est possible. C'est ce que je me suis dit. Et cet homme, continue-t-il d'une voix prête à se briser en faisant un geste derrière lui, vers la rue. Celui qui l'aurait enlevé. Qui sait ? Vous le connaissez ? Elle fait un signe de dénégation. Non. Enfin, de vue, c'est tout. Je ne le saluais même pas quand je le croisais. Il a parlé à mon mari une fois il y a quelques semaines. Apparemment, il avait bu et lui a demandé s'il était marié. C'était assez bizarre. Mais maintenant qu'on sait ce qu'il manigançait sur Internet... Oui, c'est tellement malsain. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant, Les incels. Mon Dieu, ces pauvres types.
La masculinité toxique, il y en a partout.
Il hoche la tête, puis la secoue.
Non, pas chez nous. Je peux vous l'assurer. Saphir vivait avec deux hommes, et nous n'avons pas cette mentalité-là. Chez nous, les filles sont à égalité avec les garçons. Il faut que vous le sachiez. J'ignore ce qu'il s'est passé, mais elle n'essayait pas de fuir des problèmes à la maison. Chez nous, tout allait bien. Tout va bien. Elle le croit. Ses paroles sont d'une sincérité évidente.
J'ai appris que vous aviez perdu votre père récemment.
Oui, répond-il en baissant les yeux. En octobre. Ça a été dur pour Saphir. Elle a cessé de s'alimenter, de faire ses devoirs. Je lui ai proposé de retourner consulter votre mari, de m'occuper de prendre les rendez-vous, mais elle m'a dit qu'elle n'en avait pas besoin. J'ai demandé à quelqu'un du lycée de venir la voir, une psychologue scolaire. Mais ça n'a pas été d'un grand secours. Et puis, début novembre, elle s'est remise d'un coup. Elle a recommencé à se nourrir, à s'intéresser à ses études. On a passé de très bonnes fêtes ensemble, comme une vraie famille. Et puis, sans que j'arrive à deviner pourquoi, après Noël, elle a commencé à s'éloigner.
Comment ça ?
Elle n'était pas souvent à la maison. Elle traînait beaucoup chez sa meilleure amie, où elle allait marcher pendant des heures. Elle ne dormait pas souvent dans son lit. Et je me disais, bon, elle a 17 ans, elle est presque majeure, elle a besoin de son indépendance. Elle n'était pas très en avance sur ce plan-là, un peu immature. Elle n'avait pas une vie sociale très intense, n'allait pas aux soirées avec les jeunes de son âge. Elle n'a jamais eu de petits copains, vous voyez. Donc je me disais que c'était une bonne chose, qu'il était temps que ma nièce trouve sa place dans le monde, et puis... Elle voit ses yeux s'embuer et se fait violence pour ne pas lui toucher le bras en signe de soutien. Il hausse les épaules et sourit tristement. Alors voilà, je me pose toutes ces questions. J'ai commencé à regarder un peu dans ses affaires. Il n'y avait pas grand-chose, en fait. Les enquêteurs ont pris son ordinateur, mais je pense qu'ils n'ont rien trouvé d'utile, ils m'en auraient déjà parlé. Tous les soirs en rentrant du travail, je m'assois dans sa chambre et je cherche un indice qui puisse me permettre de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi était-elle ici ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Et hier soir, j'ai trouvé quelque chose dans un de ses pantalons. Il plonge la main dans sa poche et sort un morceau de papier plié en quatre. Il l'ouvre et le fait glisser sur la table, vers Kate. Elle lit les mots qui y sont écrits, et son sang se fige.